Bonjour à tous et bienvenue pour la 7e rencontre de notre parcours Saint-Paul, Église de la Croix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau en Galatie. Vous rappelez qu'au cours de notre 3e rencontre, nous étions interrogés sur que se passe-t-il en Galatie. Nous avions vu une église troublée par certains. Un petit levain fait gonfler la pâte tout entière. Une église menacée par une forme de régression. Vous courriez bien. Et voilà que vous êtes en passe de vous détourner de Dieu, de passer un autre évangile. Une église tentée par le conformisme. En tout cas, les fameux agitateurs, d'après Paul, fuient la persécution de la croix du Christ. Et puis, très concrètement, venaient les questions de la circoncision, les questions d'observance de calendrier, et puis celles d'une observation plus rigoureuse de la loi mosaïque. En tout cas, en bref, une crise de maturité. À un moment donné, l'Église est troublée et ne sait plus dans quelle direction aller. Alors, comment Paul va-t-il répondre ? C'est ce sur quoi nous allons réfléchir pour cette rencontre. Et puis, nous arrêterons spécialement sur la figure de Paul comme un apôtre crucifié. C'est ce qui est le plus frappant dans l'Épître aux Galates. Alors d'abord, sa réponse, eh bien, une nouvelle fois, nous avons un long détour par l'Évangile. Et oui, encore un détour. Paul n'affronte pas la question de la circoncision directement, mais seulement au chapitre 5. D'ailleurs, il ne mentionne même pas dans le blâme initial. Par contre, au chapitre 5, verset 2, il dira « Moi, Paul, je vous dis, si vous faites circoncire, le Christ ne vous sert de rien. » Ou alors, il aurait pu pilonner directement la position des agitateurs, des adversaires, pour mettre à jour leur intention véritable. Et ça, il le fait seulement au chapitre 6. Ce sont des gens qui veulent faire bonne figure dans la chair, ceux qui vous contraignent à la circoncision. Alors, pourquoi ne fait-il pas comme ça? Ça serait tellement plus simple. En fait, il faut comprendre que Paul n'affronte jamais les questions au niveau auquel elles se posent, où elles se formulent, car souvent la vraie raison est beaucoup plus fondamentale. Et il nous aide à faire ce travail, d'aller aux raisons profondes. En réalité, lorsqu'on regarde l'ensemble de l'Épître aux Galates, on peut voir qu'il s'agit d'un long détour par l'Évangile, l'Évangile de la grâce, qu'il a reçu non par tradition humaine, mais par révélation. Disons-le rapidement, un premier argument, chapitre 1, verset 13, à la fin de chapitre 2, eh bien, Paul raconte un peu sa propre histoire. Comment l'Évangile lui a été révélé et comment il s'est battu pour garder l'authenticité de la vérité de l'Évangile. Ensuite, au chapitre 3, jusqu'au verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 7, il montre que cet Évangile, d'une certaine manière, avait déjà été annoncé par avance à Abraham. « En toi seront bénies toutes les nations de la terre. » De sorte que l'expérience spirituelle des Galates, en tout cas celle qu'ils ont faite avant, lorsqu'ils ont vécu quelque chose de l'Esprit-Saint, eh bien s'aligne sur ce qui était dit dans l'Écriture. Car les Galates, eux aussi, ce ne sont pas à cause des œuvres de la chair, mais en raison de la foi qu'ils ont reçu l'Esprit. La pensée de Paul avance, elle se demande, mais pourquoi alors ces Galates veulent-ils faire marche arrière ? Au chapitre 4, mais un peu plus loin, Paul va rappeler les premières circonstances de sa venue parmi eux, dans la faiblesse. Et pourtant, ce fut une expérience de béatitude. Toute tentative de faire marche arrière devrait alors paraître vaine aux yeux des correspondants. Et c'est seulement après tous ces développements qu'au chapitre 5, eh bien, il donne des déterminations concrètes sur la circoncision, suivies d'une partie exhortative, comme souvent chez lui, qui ici prend la forme d'une description de la vie selon l'Esprit et non pas selon la chair, chapitre 5, verset 13, jusqu'au chapitre 6, verset 10. Vient alors l'épilogue final au chapitre 6. Oui, pourquoi ce détour ? On l'a dit, pour aller aux raisons fondamentales, mais aussi pour une autre raison, c'est que, on l'a vu, la question en Galatie, c'est la circoncision. Or, la grande tentation, ce serait d'opposer circoncision à non-circoncision, comme si c'était deux visions du monde religieux qui étaient en confrontation, qui s'affrontaient. Or, Paul le dira à la fin du chapitre 6, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui compte, mais la création nouvelle. Il y a encore un autre mode, une autre manière de se comprendre et de vivre sa relation à Dieu. En fait, si Paul veut renouer un contact vigoureux avec l'Évangile, c'est pour faire émerger quelque chose de nouveau. Voilà ce long détour par l'Évangile. Alors, dans cette épître aux Galates, où se situent les mentions explicites de la croix, de la crucifixion? Et en fait, c'est déjà étonnant de le constater, en des lieux stratégiques, en des points décisifs de l'argumentation. La première mention de la croix, c'est à la fin de la première partie, le fameux argument sous forme de témoignage. Paul a cette formule devenue célèbre, « Avec le Christ, je suis crucifié », comme une manière de ressaisir, dans le langage de la crucifixion, son rapport au Christ qui lui a été communiqué à travers l'Évangile. Vient alors la deuxième partie argumentative qui s'ouvre à nouveau par une mention de la crucifixion. « Ô Galates insensés, vous, sous les yeux de qui a été dépeint le Christ crucifié ?» Comme si ce simple rappel devait leur faire revivre leur expérience première et les détourner de leur tentation d'un autre évangile. Et tout à la fin de cet ensemble, au chapitre 5, verset 11, Paul à nouveau parle de la croix, du scandale de la croix. « Frère, si moi je prêche la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ?» Alors il est rendu inopérant, le scandale de la croix. De même, dans la partie exhortative, plus morale, éthique, eh bien Paul dit que ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Enfin, c'est surtout dans l'épilogue final que le vocabulaire de la croix est concentré. Il y a cette fameuse synchrisis en grec, c'est-à-dire une sorte de comparaison entre la posture des agitateurs, eux qui fuient la persécution de la croix, et puis la posture de Paul, qui dit qu'il n'a pas d'autre vantardise que dans la croix du Seigneur, par laquelle le monde est crucifié à lui, et lui au monde. Que retenir de ce regard d'ensemble? D'abord que, je l'ai dit, les formules sont situées en des points stratégiques, à la fin d'une argumentation, ou juste en ouverture. Mais d'ailleurs, plutôt à la fin, comme une manière de récapituler. Les formules sont abruptes, condensées, énigmatiques, comme si elles avaient une efficacité en elles-mêmes. Et puis, on peut dire à partir de là que c'est certainement grâce à l'épître aux Galates que la croix est devenue comme le symbole chrétien, le symbole de l'identité chrétienne, symbole au sens premier du terme, c'est-à-dire ce qui rassemble, ce qui met ensemble différents éléments. Paul n'explique pas beaucoup, mais il présente la croix, il prononce la croix, il la met sous les yeux. Car effectivement, on peut remarquer que le langage est beaucoup plus visuel qu'en corinthien. Dans la première épître aux Corinthiens, vous rappelez, la croix est associée au langage. C'est la prédication de la croix qui est le fondement de l'Église. La croix est prêchée, annoncée. Ici en Galates, la croix est beaucoup plus une croix graphique qui est présentée sous les yeux des Galates. D'ailleurs, le vocabulaire visuel est concentré à la fin. Paul dit « Mais voyez avec quelles larges lettres j'écris ce que je suis en train d'écrire de ma main ». Et à la fin, il dit « Je porte en mon corps les marques de Jésus crucifié ». Enfin, les marques de Jésus, mais on comprend Jésus crucifié, comme s'il voulait se montrer lui-même à ses correspondants. Pour une formule choc, on pourrait dire qu'à Corinthe, c'est le poids des mots, et à Galatie, le choc des photos, le choc de la représentation. Mais il y a un autre aspect sur lequel je voudrais surtout m'arrêter pour cette rencontre, c'est le rapport très spécifique dans cette lettre que Paul, comme apôtre, entretien avec la croix. Paul et la croix. Paul, apôtre crucifié. En fait, ce qui ressort de cette lettre, et c'est presque dérangeant, c'est une très forte présence du « je » paulinien, de Paul qui parle en première personne. On a vu l'ensemble du premier argument est une forme de récit autobiographique. Ensuite, il rappelle sa première venue parmi eux, au chapitre 4. On l'a vu, il y a la mise en avant de sa persécution à propos de la circoncision. Pourquoi suis-je encore persécuté? Et puis surtout, à la fin, moi, pas d'autre vantardise, etc. Alors une question se pose. Ce ego de Paul est-il envahissant? Poser cette question, c'est voir que Galates, c'est pas seulement une crise de la part des Galates eux-mêmes, des croyants, mais aussi une crise du leadership, peut-être de la manière d'exercer la maternité ou la paternité spirituelle. Paul s'oppose férocement aux fauteurs de troubles. Mais est-ce qu'il ne risque pas de tomber dans le jeu de ses adversaires? Lui qui les accuse de faire bonne figure auprès des Galates, est-ce qu'il ne fait pas un peu bonne figure auprès des Galates en se montrant ainsi tellement? Bref, Est-ce que la présence de l'apôtre est trop envahissante? Ou est-ce que son ego est d'un autre ordre? C'est une question essentielle pour l'Église aujourd'hui, où parfois on aurait tendance à mettre des personnes sur des piédestals, à se dire de tels prédicateurs ou de telles communautés. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas le risque de starisation, le risque d'un ego surdimensionné? Alors, reparcourons un petit peu ces passages où Paul se met en avant, ou en tout cas, il semble se mettre en avant. On a vu le premier argument est de style autobiographique. Paul veut dire que, à ses correspondants, eux qui sont tentés de passer un autre évangile, que l'évangile qu'il leur a prêché, il a reçu non par tradition humaine, mais par révélation. Alors il commence, « Vous avez entendu quel était mon comportement dans le judaïsme ?» Et alors il va raconter effectivement quelle était sa situation avant, sa vie passée. Une vie marquée par la compétition, par le zèle, par la persécution des chrétiens, par le fait de vouloir être toujours le premier, le meilleur, tellement dans la tradition des pères qu'il en oubliait d'être frère. Alors vient l'expérience fondamentale de retournement, la révélation de Jésus en lui, de Jésus comme fils de Dieu, une révélation par grâce, une expérience de gratuité, de filiation aussi, mais non pas une filiation conquise, une filiation reçue. Et ça, cela va le pousser à la mission. Il a reçu le Fils en lui, par révélation, pour l'annoncer, pour l'évangéliser parmi les nations. Évidemment, on pourrait penser que Paul est une sorte d'ovni, lui qui parle tellement de la révélation de l'Évangile. Est-ce qu'il a raison de se couper ainsi, semble-t-il, de toute tradition humaine? Alors, dans la suite de ce chapitre, chapitre 1, chapitre 2, eh bien, il raconte les relations qu'il a eues avec les autres membres de l'Église. Il est clair que l'expérience qu'il a vécue lui a donné des lumières très importantes sur un rapport différent par rapport à la loi, une compréhension nouvelle de la loi pour laquelle il va se battre. Le moment par excellence de cette relation un peu tendue avec les autres membres de l'Église, c'est ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, au chapitre 2, verset 11 et suivant, où là il s'est ouvertement opposé à Pierre, Képhas, qui lui semble trop hésitant. Pour Paul, l'enjeu est tellement important qu'il ne peut pas se taire. Il raconte que Pierre, à un moment donné, mangeait avec les païens, et puis quand des gens de la part de Jacques sont venus, eh bien, il a fait marche arrière. Paul dit au verset 18 du chapitre 2, « On ne peut pas construire à nouveau ce qui a été détruit. » Ça veut dire que si certaines choses de la loi ne sont plus contraignantes pour le chrétien, il ne faut pas les remettre en place. Il y a, pourrait-on dire, un irrévocable de la grâce. Un seuil qui, une fois qu'on l'a franchi, on l'a franchi une fois pour toutes. Il n'est donc pas possible d'hésiter, de faire marche arrière. Mais comment l'exprimer? Voyez, parler seulement de la vie et de la mort risque de nous faire un peu rentrer dans le cycle des saisons, la vie, la mort, la vie, etc. Un passage qu'on préfère dans les deux sens. Non, il faut marquer les choses. Renouant avec son expérience personnelle qu'il a décrit tout à l'heure, le Christ révélé en moi, Paul l'a décrit à nouveau, mais il met en valeur une autre facette. C'est le verset 19. « Moi, en effet, par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Avec Christ, je suis co-crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi. Christ vit en moi. » Évidemment, l'expression de la crucifixion est métaphorique. Paul n'a pas été crucifié, il n'est pas un larron qui a été crucifié avec Jésus. Surtout, ce qui est important, c'est que cette expression de crucifié avec, assez énigmatique, est aussitôt reformulée en termes de reconfiguration de l'ego. Je vis, mais ce n'est plus moi. Son ego a été transformé. Juste avant, il a dit que par la loi, il est mort à la loi. Cet ego qui est mort, c'est l'ego construit par la loi. Celui qui tentait de se justifier lui-même, de se légitimer, de se gonfler dans un esprit de compétition, etc. Bref, crucifié avec est une expression très forte qui marque la liberté nouvelle. Mais cette liberté a un prix. Elle a une marque, un peu semblable à celle des crucifiés qui, pendant un bref moment, avant de tomber dans leur agonie, étaient comme des hors-la-loi, mais aussi des sans-loi. Bien souvent, on raconte que les crucifiés n'avaient pas d'autre consolation que d'injurier ceux qui les crucifiaient, de profiter comme ironiquement de leur position élevée, au-dessus des spectateurs, comme si que tout ce dont on voulait les priver, eh bien, ils le recevaient pour un bref moment. Être vu de tous, être élevé, être libre, être puissant. Mais bien sûr, de manière tellement ironique, car tellement souffrant. Il y a quelque chose de l'ordre de cette même ordre chez Paul, crucifié avec le Christ, libre par rapport à la loi, et en même temps subissant peut-être le rejet, le mépris. Il doit dire adieu à toute reconnaissance, et de manière irrévocable. Oui, l'ego de Paul est un ego reconfiguré, humilié, crucifié, qui n'existe que par le Seigneur. La croix est ici le symbole d'une liberté paradoxale. Alors on peut parcourir les autres passages où cet ego paulinien est en jeu. Par exemple, au chapitre 4, versets 12 et 15, il rappelle sa première venue parmi eux. Il ose dire, mais devenez comme moi. Comme moi, je suis devenu comme vous. Je vous en supplie, frère. Est-ce une autorité intolérable, vouloir être imité? En fait, derrière, il y a l'expérience de la crucifixion. Paul dit que quand il est venu parmi eux, il est venu dans la faiblesse. Et l'épreuve qui était pour eux sa chair, malade, il ne fut pourtant, malgré cela, malgré cette épreuve, ni méprisé, ni craché dessus. À travers ces deux mots, d'ailleurs, on voit la réaction que bien souvent les gens faisaient vis-à-vis d'un crucifixié. On les méprisait, on leur crachait dessus. Paul dit qu'au contraire, c'est comme un ange de Dieu qu'il a été accueilli, comme le Christ Jésus. Ainsi, Paul crucifié est transparent du Christ. Il est tellement exproprié de lui-même, je vis mais c'est plus moi, Christ vit en moi, qu'il laisse passer quelqu'un d'autre. Et les Galates sont invités eux-mêmes à ne pas faire marche arrière dans leur chemin spirituel, pour être à leur tour transparent de Jésus. C'est pour ça que lorsqu'il revient sur les décisions autour de la circoncision, Paul rappelle que lui-même est crucifié, ou plutôt que lui-même est persécuté. Si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? On retrouve cette mise en avant du jeu apostolique. Est-ce que Paul se met à cramer, à crâner? De quelle persécution s'agit-il? Et quel rapport avec la croix? Alors il est rendu inopérant, le scandale de la croix. En fait, historiquement, c'est assez difficile à comprendre. Pourquoi est-il persécuté? Par qui? Mais on peut comprendre quelque chose de plus intérieur. En fait, Paul sait que tout ce qu'il est un don gratuit de Dieu. Et en fait, un don gratuit conduit toujours à la persécution. Si des bénédictions sont liées à des conditions, il suffit d'attaquer ces conditions pour détériorer la bénédiction. Mais si la bénédiction est un don gratuit, pour la tester, eh bien on va persécuter celui qui la porte. Ainsi, au chapitre 5, verset 11, sa persécution est symbole simplement de sa cohérence. Il le vit pour les autres. Enfin vient la formule récapitulative opposant les agitateurs qui fut la persécution de la croix. Paul dit de manière étonnante son unique vantardise dans la croix du Seigneur Jésus par laquelle le monde est crucifié à lui et lui au monde. Évidemment, cette formule est très forte. Elle ressemble à la première, crucifié avec le Christ. Ici, ce n'est plus seulement le rapport à la loi, c'est le rapport au monde. Oui, si Paul est tellement présent dans sa lettre, on croirait presque que Paul joue à Jésus. Les fameux « moi, je suis la lumière du monde, la résurrection, la vie, le chemin » dans l'évangile de Saint Jean. En fait, c'est que Paul est crucifié au monde. Il est détaché, transparent. Je pense que le jeu paulinien est un bel exemple de chasteté, comprise comme une capacité d'ouverture à l'autre, sans convoitise, sans envie, sans fascination, sans jeu de séduction. Une ouverture d'un être pacifié, où progressivement il y a une relation harmonieuse, une harmonisation progressive de la relation à soi, avec tous les désirs, les pulsions, de la relation à Dieu, de la relation aux autres. À la différence des agitateurs, Paul ne manipule pas. Il n'utilise pas les Galates pour ses propres intérêts. D'ailleurs, on remarquera que Paul n'exige jamais des autres qu'ils soient crucifiés. Il le dit de lui-même. Et il espère qu'avec ce témoignage, les autres comprendront. Mais il ne l'impose pas. Car ce qu'il a reçu par révélation, il l'annonce par l'Évangile. Enfin, remarquons qu'en Galate, la croix est un peu en concurrence avec la circoncision. Et cela peut nous faire réfléchir car la circoncision est un dépouillement au sens littéral du terme. Et la croix également est une forme de dépouillement. Une dépouillement car pour être fécond, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des frères et des sœurs, avec lesquels nous vivons non pas des relations de rivalité ou de mainmise, mais des relations d'entraide mutuelle et fraternelle. Voilà Paul crucifié avec le Christ, transparent de la grâce, transparent du Christ, portant un témoignage pour que l'Église soit transformée, chiffre de l'irrévocable de la grâce, acceptant que dans la faiblesse, le Christ soit donné, prêt à être persécuté, chaste et dépouillé dans ses relations. Alors j'ai bien conscience, et je finirai par là, que vivre en crucifié et laisser jaillir l'esprit, ce n'est pas si facile de décrire plus concrètement. Mais je voudrais vous lire un petit témoignage que j'ai lu un jour. Il s'agit d'un billet écrit par un prêtre. Ce prêtre était aumônier pour des prêtres âgés. Il accompagnait donc d'autres prêtres jusqu'au seuil de la mort. Et un jour, il a écrit un petit billet comme contemplant un prêtre en train de mourir. Et ce qu'il dit de cet homme mourant, ce qu'il dit de sa contemplation de la vie d'un homme, me semble une description très belle de ce que ça veut dire vivre crucifié avec le Christ et laisser jaillir l'Esprit. Je le cite. « En prenant le temps de contempler cette vie donnée par le Seigneur pour exprimer au monde la joie de son salut, et en le choisissant comme prêtre et serviteur de sa grâce, je prends davantage conscience de ce long temps de dépouillement pour atteindre l'excellence de l'amour. Et nous dépouille, comme une réponse à notre grand désir de rencontrer le Seigneur dans la gloire. Les combats de la vie ne sont rien en face au don de Dieu, que Dieu nous fait comme prêtres, en nous associant à son Fils Jésus sur la croix du sacerdoce royal. La qualité de nos relations nous ouvre toujours plus et nous conduit invariablement vers l'offrande totale de notre liberté. Dans ce geste, notre nature découvre son appel au dessaisissement pour laisser l'Esprit Saint œuvrer à la manière de Dieu. Dieu se choisit les petits et les humbles, car ceux-ci ne peuvent que se laisser conduire par Dieu. Belle parabole que ces visages de sainteté que le Seigneur nous donne comme compagnons de route. Alors voilà, nous sommes presque au terme de notre parcours. Il reviendra dans une dernière rencontre de ressaisir les fils principaux, peut-être d'exprimer notre rêve pour l'Église de demain. Avant cela, quelques exercices pour intégrer cette manière de vivre crucifié, crucifié au monde, crucifié avec le Christ. Première question, quels sont peut-être les témoins qui m'ont marqué? Quels aspects de leur union au crucifié ont-ils incarné? Qu'est-ce que j'ai appris à leur contact? Et puis à l'inverse, y a-t-il dans mon entourage ecclésial des relations qui ne semblent pas ajustées, des influences oppressives, des manipulations, des utilisations de l'autre? Comment une meilleure compréhension de la croix permettrait de les faire évoluer, de les rendre plus belles? À bientôt.